Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ah oui, tiens.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. On a rarement la possibilité de faire deux fois une première bonne impression. Derrière cette boutade se cache une réalité. La première impression est souvent cruciale dans le bon déroulement d'une conversation ou d'une relation. Que ce soit lors d'un entretien d'embauche ou lors de la rencontre de la belle famille. Alors, quand il s'agit de rencontrer pour la première fois une civilisation venue de l'espace, aujourd'hui, je vais vous parler du premier contact entre les terriens et les extraterrestres vu par le biais de l'ASF. La rencontre avec une espèce d'outre-espace est l'un des principaux thèmes de l'ASF, avec le voyage dans le temps et les épopées spatiales. Mais autant vous le dire tout de suite, dans une majorité de cas, la rencontre avec des extraterrestres n'est pas une situation d'avenir. Vous n'imaginez pas le nombre d'œuvres où quelques infortunés humains, voire même l'ensemble de l'humanité, passent à deux doigts de l'extermination. Petite revue des différentes rencontres qui ont vite tourné court. Independence Day. D'énormes soucoupes volantes se positionnent au-dessus des plus grandes villes dans le monde et les détruisent sans avertissement. La guerre des mondes. Déjà, le titre donne un indice. Des météorites s'écrasent sur Terre et en sortent des robots tripodes qui tuent toutes les personnes qu'ils croisent. La série V. Là encore, des soucoupes volantes débarquent. Par contre, les extraterrestres sont sympas. Au début. Après, ça tourne un peu en autre boudin. World Invasion Battle Los Angeles. Pareil, le titre annonce déjà la couleur. C'est la bagarre. Mars Attack. Toujours pareil, le titre spoil gentiment. Le jour où la Terre s'arrêta. Pas besoin de détailler. Pêle-mêle viennent ensuite Age of Tomorrow, Predator, The Thing, Invasion Los Angeles, Cloverfield, Cowboy et Envahisseur. L'exemple le plus brutal nous vient du Guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams. La rencontre dure moins de 5 minutes. On y rencontre les Vogons, une race d'aliens ne vivant que pour l'administration. Ils sont l'exemple parfait d'un régime technocratique bête et discipliné. Leur vaisseau apparaît subitement autour de la Terre. Ils annoncent qu'elle va être détruite pour faire passer une voie express hyperspatiale et la vaporise, tout simplement. Rapide sans fioriture. L'administration dans toute sa grandeur. Et là encore, on est à domicile. Il y a des rencontres qui se font en terrain neutre, si je puis dire, dans l'espace. Malheureusement, le bilan n'est pas plus positif. Un seul mot suffit. Alien. Même quand on va chez eux, c'est pas fameux non plus. Dans Starship Trooper, les humains gagnent, mais à quel prix ? Dans les chroniques martiennes de Ray Bradbury, les premiers humains qui arrivent sur Mars se font démater. Il arrive parfois que les humains arrivent à cohabiter avec les extraterrestres. Dans ce cas, il y a deux écoles. Soit le public n'est pas au courant et ça se passe plutôt bien pour la majorité d'entre nous, comme dans Men in Black, soit comme dans District 9 de Neil Blomkamp, tout le monde est au courant mais les rapports interespèces ne sont pas au top, faute à une incompréhension des humains par rapport à la situation des crevettes, comme ils sont surnommés. Déjà, un tel surnom donne une idée de l'estime que les humains accordent aux extraterrestres. Bon, pour le moment, vous allez me dire, c'est pas joyeux tout ça. Que les rapports avec une civilisation venue de l'espace doivent se résumer à une confrontation brutale ou une cohabitation tout juste acceptable. Je vous répondrai que vous n'avez pas totalement tort. Et que j'ai d'abord présenté les œuvres qui annoncent une rencontre désagréable. D'où euphémisme. Je ne vais pas passer l'émission à vous faire le détail des scénarios imaginés quant aux vicissitudes qu'endurerait la population terrienne lors d'un premier contact avec des extraterrestres. Ce n'est pas forcément très constructif. Et là, on est plutôt dans du sadisme. Je vais donc vous raconter comment la science-fiction imagine la rencontre avec une civilisation bienveillante. Vous saviez qu'il existe un système de classification, d'observation d'ovnis et de rencontres avec des extraterrestres ? Ce système, énoncé pour la première fois par Alan Hynek en 1972, comprend 10 niveaux. Ça commence par l'observation nocturne et l'observation diurne, toutes les deux à plus de 150 mètres. Il y a aussi l'observation radar, viennent ensuite les observations à moins de 150 mètres. Il y a celle du premier type, où l'on voit un ovni, celle du deuxième type, où on constate des traces physiques, celle du troisième type, où on voit un ovni et ou ses occupants, celle du quatrième type, où un témoin dit avoir été enlevé par les occupants de l'ovni, la cinquième, là il s'agit d'entrer en communication directe avec les occupants de l'ovni. La sixième, ça commence à devenir glauque. Là on parle d'humains ou d'animaux tués par les occupants de l'ovni. Et la septième, il s'agit de personnes ayant eu des relations sexuelles avec les occupants de l'ovni, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ovni. Voilà. Dans la liste, il y en a une qui a dû vous évoquer quelque chose. Pas la dernière. La troisième. Plus précisément, la rencontre du troisième type. Il s'agit du quatrième long métrage de Steven Spielberg qui sortira en 1977. L'action se déroule aux États-Unis dans les années 70. Dans ce film, on suit deux histoires qui se déroulent en parallèle. La première nous entraîne avec une équipe de scientifiques qui parcourt le monde à la découverte des phénomènes inexpliqués. Entre autres, l'apparition d'une escadrille d'avions disparue en 1945 au large de la Floride et qui sont réapparues au Mexique sans leur pilote. Ils vont ensuite retrouver un cargo dans le désert de Gobi. Et enfin dans un village en Inde où une foule quasiment en transe chante une mélodie à 5 notes qui leur serait venue du ciel. La deuxième histoire nous ramène plus prosaïquement aux États-Unis, où certains habitants ont assisté à des phénomènes aériens mystérieux. Ces rencontres laisseront des traces dans l'esprit de quelques-uns d'entre eux, physiques, parfois, mais surtout mentales. Ils deviennent comme obsédés par une vision, celle d'une montagne, et ils se mettent à la dessiner ou la sculpter sans arrêt, ce qui, bien évidemment, provoque des interrogations de la part de leur entourage, voire même plus. Cette montagne existe bel et bien, et elle devient le point de convergence de nos malheureux entêtés, qui, une fois sur place, croiseront la route des scientifiques évoqués plus haut et qui, de leur côté, ont reçu une invitation codée. Vous savez, les 5 notes. Pour un rendez-vous au sommet de la fameuse montagne. Le film, bien que foncièrement positif, lorgne un peu du côté du film d'épouvante, pour certaines scènes, et du côté du drame, quant à la réaction des personnages face à l'obsession qui les hante. À un étonnement mêlé d'excitation lors des premières rencontres fortuites, succède une frustration quant à l'incompréhension de leur entourage, qui va les prendre pour des fous furieux. Réaction concevable à défaut d'être logique. Mais que feriez-vous si un proche vous annonçait qu'il a vu un ovni de très près et qu'il commence à avoir une attitude inhabituelle ? Même moi qui pense être assez ouvert sur le sujet, je ne suis pas sûr de suivre ce proche dans son délire, entre guillemets. Dans Rencontre du troisième type, la communication officielle avec les extraterrestres se fait par la musique. Les scientifiques reçoivent d'abord un simple message de 5 notes. Lors de la cérémonie de la rencontre, le dialogue s'étoffe réellement pour devenir une vraie discussion. Thank you. ce qui donne l'impression que ce sont des musiciens, ou plutôt des musicologues, qui tissent les premiers liens entre les deux espèces.
Envoyez-lui 6 croches et faites une pause. L'ouverture doit se trouver sur la gauche.
Ils nous ont envoyé d'abord 4 croches, puis un groupe de 5 croches et puis un groupe de 4 autres croches.
C'est bon, presque toujours en dessous de 9000 angstroms.
À noter dans ce film la gestion de l'événement. Elle est principalement le fait des scientifiques. Ils sont certes accompagnés par les militaires, mais plus pour un côté pratique et pour tenir la population à distance. Il semblerait qu'ils tiennent à ce que cette rencontre se fasse en toute discrétion, en comité restreint. Les extraterrestres ne semblent pas avoir le même point de vue. En effet, de nombreuses personnes ont eu une illumination, sorte d'invitation subliminale à se rendre sur la montagne. La question de la publicité d'un tel événement se pose dans ce cas-là. Dans Rencontre du troisième type, les humains ont la possibilité de le faire discrètement. Mais est-ce forcément la bonne méthode ? Un tel événement a une portée mondiale et la population a droit de le savoir. Mais comment réagirait-elle ? La stupéfaction, bien évidemment. La joie, la peur, une hystérie collective. Dans les cas cités au début, pas de surprise. Ils viennent nous défoncer et donc on ne réagit pas forcément très bien. Mais si un vaisseau arrive et qu'il ne se montre pas hostile ? C'est le point de départ du film Premier Contact de Denis Villeneuve sorti en 2016. Là, il y a même plusieurs vaisseaux, mais le schéma reste identique. Petit aparté, c'est moi où le vaisseau dans Premier Contact ressemble beaucoup à un globule rouge. Mis à part la couleur, bien sûr. Donc, les vaisseaux arrivent, et... rien. Il y a juste une trappe qui s'ouvre à heure fixe tous les jours comme une invitation à monter à bord. Le film étant récent, je ne vais pas dévoiler l'intrigue, je vais surtout me concentrer sur le questionnement concernant la prise de contact avec les extraterrestres. Il y a débat au sein de l'équipe qui est en charge de la communication avec les visiteurs. Et chacun va mettre son domaine d'expertise en avant. Le physicien avec comme argument l'universalité des chiffres. 2 plus 2, ça fait toujours 4. Et la linguiste qui prône une approche plus littéraire. La communication est essentielle pour comprendre les motivations de l'autre. On ne peut se fier à une posture comme entre terriens. On sait reconnaître une attitude agressive sans qu'une personne ne dise un mot. Encore que certains gestes anodins pour un Français peuvent se révéler extrêmement grossiers pour un Chinois ou un Sud-Américain. Alors, quant à deviner l'état d'esprit d'un être qui ne serait déjà pas forcément de forme humanoïde, sans même le vouloir, une offense peut vite arriver. Et dans l'hypothèse d'une rencontre amicale, la patience des uns ou des autres peut vite laisser place à de l'agacement. Des extraterrestres débarquant sur Terre avec les meilleures intentions et ne trouvant aucun interlocuteur qui puisse les comprendre, tourneraient les talons et catalogueraient notre planète comme habitée par des êtres dénués d'intelligence. On aurait l'air de quoi ? Et c'est pas sûr qu'ils arrivent avec leur pierre de rosette sous le bras. Ou la tentacule. Une série toutefois a résolu le problème de la communication intercivilisationnelle, Stargate. Quasiment tout le monde parle anglais, même les êtres qui se faisaient passer pour des rois dans l'Égypte antique. C'est quand même vachement pratique. Blague à part. Les moyens de communication que j'évoque dans l'émission sont la musique, la parole, les maths ou l'écriture. Si on tombe sur des télépathes, là le support de com, ça va commencer à être compliqué. Pire encore, des êtres qui communiquent par leurs odeurs ou par un moyen qui nous échappe complètement. Un simple bonjour pourrait résulter chez un humain par un AVC. Ou inversement. J'ai souvenir d'une nouvelle dont j'oubliais le nom. Elle racontait l'arrivée dans un désert sur Terre de deux extraterrestres. Qui se faisait désintégrer par l'onde de choc d'un avion passant à côté d'eux. Dans le film Contact de Robert Zemeckis, sorti en 1997, c'est une approche qui mixe deux domaines, le son et les mathématiques. L'histoire, Eleanor Haraway, une jeune femme diplômée en astronomie, choisit de faire partie du programme SETI, programme de recherche de civilisations extraterrestres. se programme par du principe qu'une civilisation assez avancée émet des signaux électromagnétiques. Comme ça se passe sur Terre, toutes les ondes radio et télé se propagent dans l'espace. Et on compte là-dessus pour détecter une autre civilisation qui ferait la même chose. Mais le choix d'Arroway de participer à ce programme fait doucement rire certains de ses collègues. Rechercher les petits hommes verts, ça ne fait pas très sérieux. Mais sa persévérance paye. Un jour, elle détecte un signal. Ce dernier est composé d'une image et d'une bande-son.
Fais une rotation de 90 degrés à gauche.
Qu'est-ce qui se passe?
T'arriveras jamais à le croire.
Elles font référence aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, jeux à la gloire du Troisième Reich.
Je déclare les Jeux de Berlin en célébration des premiers Jeux Olympiques de la nouvelle ère. Ouvert.
N'y voyait rien d'idéologique. Les Jeux de Berlin faisaient partie des premiers sujets diffusés à la télé. La preuve que ceux qui ont émis ce signal ont eu la même idée que les fondateurs du programme SETI. Ce moment de frayeur passé, on découvre qu'il y a dans les signaux suivants un plan pour construire une machine. Une machine, mais pour quoi faire ? Je vous laisserai le découvrir par vous-même si vous ne l'avez pas encore vu. À noter que dans ce film, un nouvel élément entre en jeu, la religion. Notre interlocuteur d'outre-espace, qui est-il ? Un ami ? Un ennemi ? Dieu ? Si oui, lequel ou lesquels ? Au-delà des trois grandes religions monothéistes, il y a d'autres courants de croyances qui font référence à des divinités multiples. Donc on fait quoi avec ça ? Dans le film Contact, le sujet est très présent, au point qu'il interfère dans le processus scientifique. Lors d'un premier contact, cette hypothèse risque de rapidement venir sur le tapis. De plus, le parallèle est simple à établir. Dans l'imaginaire collectif, Dieu est un être qui vit dans le ciel. Et les fameux signaux viennent du ciel, raccourci un poil simpliste mais compréhensible. Dans l'histoire, les explorateurs européens qui débarquaient en Amérique ou en Afrique étaient considérés comme des divinités. Et ils ne se sont pas gênés pour en profiter. Tant qu'on en est à parler des explorateurs, bien souvent, pour ne pas dire à chaque fois, la rencontre a été au large détriment de ceux qui recevaient. Sans forcément être parano, on pourrait tout de même rester vigilant. À moins que nos visiteurs soient moins avides et plus respectueux que nos ancêtres l'ont été. Tant qu'on y est, il y a un autre personnage qui mériterait son statut de dieu, Superman. Autant dans ses premiers récits et films, il y paraissait comme un bon samaritain, à part eu ceux qu'on s'en pose trop de questions, autant dans la relecture de Zack Snyder, c'est presque un point central. Dans Man of Steel, sorti en 2013, sa révélation au monde se fait sous la contrainte d'autres extraterrestres, ses compatriotes en disgrâce. Il arrivera à en venir à bout et passera pour un sauveur. Mais dans l'opus suivant, Batman vs Superman, ce dernier se voit refuser ce statut de divinité par certains terriens qui voient en lui un usurpateur, alors que d'autres le vénéreront. Ses capacités physiques hors normes font de lui une menace potentielle, alors qu'il semble guidé par un réel altruisme. Cette attitude de méfiance, voire de défiance, sera-t-elle de mise lors du premier contact ? Peut-on juger des intentions d'un visiteur extraterrestre à travers une grille de valeurs terriennes ? La rencontre avec des êtres d'outre-espace peut parfois être conditionnée par une sorte de barème. Ils attendent gentiment que l'on soit assez sage, mais dans ce cas-là, c'est pas demain la veille qu'on les verra débarquer, ou que l'on ait atteint un stade technologique assez élevé. C'est le cas dans l'univers de Star Trek où il faudra attendre qu'un certain Zefram Cochrane réalise le premier vol spatial avec un moteur à distorsion. Le hasard de la programmation de cette émission veut que l'on fête ce mois-ci, le 5 pour être précis, l'anniversaire du premier vol qui aura lieu en 2063. Le moteur à distorsion ayant une signature électromagnétique bien précise, ce premier vol sera vite détecté par un vaisseau vulcain. Le premier contact interespèce permettra aux Tariens qui sortent d'une guerre mondiale d'entrer dans la Fédération des Planètes Unies et d'entamer une ère de tranquillité et de prospérité. Encore que pour la tranquillité, ça restera à voir. Si on dit extraterrestre, on va tout de suite penser espace. Logique. Mais ils peuvent aussi venir d'autre part, des océans par exemple. Et là, on peut envisager le pire ou le meilleur. Dans Pacific Rim, des monstres surgissent d'une faille au fond du Pacifique et détruisent tout ce qu'ils croient sur leur passage. On apprendra qu'ils viennent d'un monde parallèle et qu'ils veulent accaparer la Terre. Bourrin, expéditif, bref, un blockbuster en puissance, mais bien réalisé par Guillermo del Toro. À l'autre bout du spectre, on a une œuvre plutôt bienveillante. Abyss, de James Cameron, sorti en 1989. Ce film est plus orienté comme une mise en garde. Nous ne sommes pas forcément la seule civilisation à vivre sur cette planète, il serait avisé d'en prendre soin. Car nos voisins des profondeurs possèdent une maîtrise telle de l'élément aquatique qu'ils pourraient nous rayer de la carte sans aucun problème. Une sorte de fable écologique quelques années avant Avatar. Assurément un des piliers de la SF, la rencontre avec des extraterrestres est peut-être un de ses plus anciens sujets. Cyrano de Bergerac n'est-il pas allé sur la Lune pour rencontrer les Sélénites au XVIIe siècle? Aborder ce thème, c'est parfois tangenter avec la philosophie. La rencontre avec l'autre, l'inconnu, peut mener à se poser des questions sur soi-même. L'altérité, ça y est, le mot est lâché, c'est reconnaître la différence de l'autre. Cette reconnaissance, on l'expérimente dès sa naissance. On rencontre des inconnus qui plus tard deviendront votre famille ou vos amis. À partir du moment où on est conscient de sa propre existence, on perçoit l'autre comme véritablement différent de soi. Mais qui dit différent ne dit pas moins bon ou meilleur. Juste différent. Mais cette capacité à accepter la différence aurait majoritairement tendance à diminuer avec le temps. Et ce n'est pas pour rien que E.T. met en scène des enfants qui vont rencontrer le fameux extraterrestre. Doubler appréhension la différence avec un thème souvent raillé qu'est la rencontre des extraterrestres, c'est complexifier encore un peu plus l'exercice, qui peut parfois s'apparenter à la masturbation intellectuelle. Quand on voit les différences qui peuvent exister entre habitants de pays même voisins, voire entre les régions d'un même pays, on se demande comment ça va se passer lors de la première rencontre interespèce. Cela dépendra des conditions, de l'état d'esprit des personnes impliquées. Au-delà de la différence physique, de la barrière de langage, quelle attitude va-t-on avoir face à eux? Allons-nous les envisager avec nos critères de terriens? Allons-nous reporter sur eux nos peurs, nos idées reçues? Les accueillerons-nous avec un bouquet de fleurs ou un fusil? Voire les deux? Et si après les premiers échanges, ils nous trouvent décevants? Ou si nous les trouvons décevants? Tout ceci reste bien théorique. Tant que la preuve ne sera pas apportée de l'existence d'une civilisation extraterrestre, ces questions n'auront pas vraiment de légitimité. Mais, et si finalement nous étions seuls? Eh bien, ce serait un gigantesque gâchis d'espace, et cette perspective serait bien plus effrayante que de savoir comment se passerait la première rencontre. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de... Vous reprendrez bien un peu de science-fiction.